France Culture. France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Les tensions entre nos pays européens et les États-Unis ne concernent pas seulement les enjeux de défense et de sécurité, où l'administration américaine multiplie les occasions de les marginaliser, sinon de les humilier. Elle pèse évidemment sur les relations commerciales, et on peut s'attendre à un nouvel assaut de Washington contre la réglementation communautaire envers les géants du numérique. Mais une offensive d'une autre nature se précise aussi depuis le retour de Donald Trump au pouvoir. Sur le plan des valeurs et des idéaux communément admis dans notre continent, la menace ne vient plus seulement de l'Est, la guerre culturelle vient aussi de l'Ouest. Bien sûr, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'américanisation de notre culture n'a cessé de s'amplifier. Nourritures en tout genre, périodiquement dénoncées, critiquées, toujours consommées et appréciées. Et dernièrement, les vagues du wokisme qui ont gagné nos mœurs sans atteindre les excès constatés outre-Atlantique. Tel un mouvement de balancier autrement puissant depuis l'assassinat de George Floyd et Black Lives Matter en 2020 jusqu'au meurtre du conservateur chrétien radical Charlie Kirk en septembre dernier, c'est bien la culture MAGA qui domine et qui transforme désormais la scène intérieure américaine. Cette force qu'incarne Donald Trump dans son second mandat, mélange de nationalisme chrétien, de vengeance à l'encontre de ces élites dites libérales, accusées de négliger la famille, de trahir le peuple et la race blanche, en favorisant l'immigration et la mondialisation, accusées aussi de se détourner de ces valeurs qui fondent l'exceptionnalisme de l'Amérique. Le Trumpisme a trouvé en Europe mieux que des admirateurs, des alliés, heureux de bénéficier de soutien et de moyens, soulagés de constater que leurs idées bénéficient d'une caisse de résonance, sinon d'un dynamisme et d'une légitimité accrue au sein des médias, des réseaux sociaux et des processus électoraux. Allemagne, Pologne, Royaume-Uni, Hongrie, Italie et bien sûr la France, d'un bout à l'autre du continent, comment s'exerce cette offensive? Quels sont les relais de ces nouveaux liens transatlantiques? Quel rôle y joue la religion, plus spécifiquement les églises évangéliques et le catholicisme identitaire? La liberté d'expression n'obéit pas partout aux mêmes traditions et aux mêmes règles. Comment maintenir les nôtres face aux assauts des intégristes du premier amendement de la Constitution américaine? Le terrain est glissant, nos démocraties ne peuvent vivre sans débat ni tolérance, nos opinions publiques se droitisent. Jusqu'où le Trumpisme est-il en train de gagner l'Europe? Eh bien, c'est ce que nous allons comprendre ce matin grâce à vous, Célia Belin. Vous dirigez le bureau parisien du Conseil européen pour les relations internationales. Olivier Roy, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'Institut universitaire européen de Florence. Jean-Yves Camus, co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès, et Yasha Munk. Yasha, vous enseignez à l'Université Johns Hopkins à Baltimore et aussi à Sciences Po Paris. Célia, vous avez publié un très bon papier sur la plateforme de ICFR il y a quelques semaines, où vous expliquez en fait que les États-Unis sont en pleine guerre culturelle. Et il me semble que ces fractures-là, évidemment, on en trouve un reflet, sinon une traduction exacte, en Europe même.
En fait, quand on utilise le mot de guerre culturelle, on transpose ce que l'on a pu voir pendant des décennies aux États-Unis, les culture wars, ce que l'on a appelé cette opposition entre différents camps sur un système de valeurs, entre les valeurs progressistes, les valeurs conservatrices. Cette guerre culturelle interne, en ce moment, sous l'influence de l'administration Trump, et du fait du style très particulier de ce président, elles sont en train d'être internationalisées. En réalité, on voit un président Trump qui fait de la politique étrangère une extension de sa politique intérieure et qui a déterminé que les Européens, finalement, étaient une sorte d'extension du Parti démocrate. Donc, il va à l'assaut de ces valeurs progressistes et libérales qu'il combat également en interne, en allant à l'assaut des Européens qui les promeuvent, alors que traditionnellement, États-Unis et Europe se retrouvaient peu ou prou dans le même camp. Cela dit, il y a un deuxième élément qui va bien au-delà de simplement le président Trump et de ses méthodes très particulières, c'est qu'on assiste actuellement à une révolution post-libérale. C'est un mouvement de fond qui affecte non seulement les États-Unis, mais également l'Europe, qui est partagé des deux côtés de l'Atlantique avec de nombreux échanges d'idées, et on le voit, c'est très couvert par les médias en ce moment, ces grands penseurs conservateurs des deux côtés, ou de la ce qu'on appelle l'ultra-droite ou la nouvelle droite, qui se reçoivent, qui se parlent, qui commentent leurs actions des deux côtés. Et cette révolution, sous les effets de cette administration Trump, est montée au plus haut niveau. Et c'est maintenant la Maison-Blanche elle-même qui l'amène.
La Maison-Blanche qui l'amène avec un vocabulaire, des comportements qui choquent parfois, mais qui en fait sont tels que, d'une certaine manière, les critères traditionnels sont cassés et on a l'impression qu'on se met tous à parler le Trump et on voit en Europe même, de la part des dirigeants, des outrances auxquelles nous n'étions pas habitués.
Ça, il y a un phénomène d'imitation de la communication politique que certains ont jugé à succès de Donald Trump, c'est-à-dire que oui, faire de l'outrance sur les réseaux sociaux, aller proposer de la transactionnalité, il y a un effet d'imitation notoire. Mais ce qui est plus profond, c'est encore une fois ce mouvement d'idées, beaucoup plus que simplement de copier un peu le style. Et ce mouvement d'idées, il est désormais mis dans la conversation générale parce qu'on a vu un certain nombre d'éléments au plus haut niveau de la Maison-Blanche. Donc, je prends pour exemple le discours du vice-président J.D. Vance à la conférence de sécurité de Munich en février, juste après son intronisation, son entrée en fonction, qui a critiqué ouvertement les valeurs européennes et a dit globalement que l'Europe allait dans un sens qui était impropre à la démocratie, parce qu'il a critiqué en particulier les efforts sur les questions de liberté d'expression, en jugeant que les manières dont les lois étaient posées en Europe répriment finalement la pensée conservatrice ou la pensée de l'ultra-droite.
Oui, il est allé jusqu'à dire qu'en fait l'Europe était devenue sa propre ennemie. Mais précisément, Yascha Mounk, vous êtes américain, vous êtes aussi très européen, donc vous êtes parfait pour être le pont ce matin dans cette émission. Et ce mouvement de balancier que l'on a vu avec en fait une grande brutalité après l'assassinat de George Floyd, ça c'était donc en 2020, et on a vu ce mouvement Black Lives Matter qui a nourri une vague de wokisme. Vous avez d'ailleurs écrit un très bon bouquin là-dessus qui a été traduit en français il y a 2 ans, me semble-t-il. Donc est-ce qu'on est maintenant dans un mouvement de balancier inverse, et surtout depuis l'assassinat de Charlie Kirk en septembre dernier, qui est devenu une sorte de martyr, si j'ose dire?
Oui, c'est ça ma peur. En fait, si on regarde l'opinion publique américaine, dans les sondages ou même dans les focus groups qu'on parle aux voteurs, la majorité des Américains restent assez modérés. Ils restent même sur des questions culturelles, sociales, assez controversées, sur des opinions qui auraient des majorités aussi en Europe. Mais la sphère politique se polarise de manière plus en plus extrême. Et tout à fait, il y a donc les voix les plus hautes à droite, mais aussi parfois à gauche, qui sont assez extrêmes dans leur lecture du monde. Et alors ce qu'on voit, c'est un peu en conflit aussi entre les élites politiques qui sont assez extrêmes et la majorité de la population américaine qui reste assez sceptique des deux parts. Et d'une certaine manière, c'est la radicalité de chaque parti qui permet à l'autre parti de quand même rester compétitif dans le jeu politique. C'est parce que la présidence de Joe Biden était tellement impopulaire que Donald Trump a pu gagner en 2024. Et c'est parce que les républicains sont tellement extrêmes, sont tellement au-delà du mainstream politique américain que les démocrates, à leur part, peuvent éviter d'aller sur les opinions qui sont en fait beaucoup plus répandues dans le pays.
Mais Célia faisait allusion à ce discours qui a évidemment saisi les élites européennes d'effroi à Munich en février dernier, en accusant l'Europe de trahir des valeurs fondamentales communes entre les États-Unis et l'Europe. Et on a vu aussi cette mise en cause par l'administration Trump avec l'interdiction d'au moins 150 mots du vocabulaire lié à ce programme diversité DEI, donc diversité, inclusion et le troisième.
Equity,
et équité, oui, en français ça se traduit moins bien. Et accusé par les Trumpistes, accusé par ces républicains extrême dont vous parlez, de racisme anti-blanc. Et donc ça, c'est une notion qui, en Europe, a du mal à s'exprimer de façon aussi brutale.
Oui, certainement. J'étais d'accord d'ailleurs avec Célia Bolland en disant qu'en fait, cette guerre culturelle est une guerre qui ne divise pas nettement les États-Unis contre l'Europe, mais qu'en fait, on voit beaucoup des conflits entre des sociétés américaines et des sociétés européennes. Et dans ce sens-là, peut-être ce qu'on voit aux États-Unis risque d'être l'avant-garde de ce qu'on va vivre aussi ici en France, dans d'autres pays européens. Sur ce thème-là, je crois que c'est très important de faire deux choses à la même fois. La première, c'est de constater quand le mouvement MAGA, quand Donald Trump, quand J.D. Vance disent des choses qui sont clairement fausses, qui ne décrivent pas la réalité, qui vont bien au-delà de ce que moi, personnellement, je trouve légitime comme constat sur la réalité américaine, et en même temps, de ne pas tomber dans le piège de refuser de voir des vrais problèmes qui expliquent pourquoi Donald Trump a pu gagner en 2024 et pourquoi d'ailleurs, si on regarde presque tous les partis, tous les pays européens aujourd'hui, le Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France, c'est la droite populiste qui en avance dans les sondages. Alors, sur ces questions-là, certainement, moi, j'étais très choqué par ce discours que Vance a mené à Munich, où notamment, il ne parlait pas du tout de la menace russe en Ukraine et en Europe.
Et il a en même refusé temps de voir le chancelier, c'était encore Scholz, il a refusé de le voir, il est allé saluer Mme Weidel, qui est la patronne de l'AFD.
De l'AFD, qui est un parti populiste très extrême, même comparé à d'autres partis populistes européens. Et en même temps, il faut dire que quand on regarde l'état de la libre parole en Europe, il y a des vraies raisons pour avoir des soucis. Si par exemple, je lis dans le Times of London, le grand journal britannique, qu'en 2023, il y a eu plus que 10 000 citoyens britanniques arrêtés pour des propos qu'ils ont menés online. Je me dis quand même qu'une des grandes démocraties, vieilles démocraties du monde, est en train de vraiment limiter la liberté de parole d'une manière qui explique aussi la rage de beaucoup de citoyens.
Avant d'en venir à cette différence dans la conception même de la liberté d'expression, qui n'est déjà pas la même, me semble-t-il, entre le Royaume-Uni et nous, en France, Jean-Yves Camus, la manière dont l'administration Trump signale ses propres priorités, les impose en fait à ses ambassades, en Europe en particulier, comment analysez-vous les priorités telles qu'elles sont, en quelque sorte, imposées aux émissaires de cette administration?
Alors, tout d'abord, les émissaires de cette administration sont, pour certains, assez mal à l'aise avec la ligne qui leur est imposée. Comme ce sont des fonctionnaires, ils n'ont pas beaucoup d'autres issues que d'appliquer les ordres. Mais très clairement, dans le corps diplomatique américain, il y a des gens qui exécutent parce que c'est leur métier, mais qui n'en pensent pas moins. Ça, c'est important de le savoir.
Il y a une tradition qui est de nommer aux postes les plus prestigieux, que ce soit Paris ou Londres, etc., de gros donateurs.
Aux postes les plus prestigieux, et c'est bien ce qui a eu lieu à Paris et dans d'autres pays, dans d'autres grandes capitales du monde. Mais cela ne descend pas jusqu'au bas de l'échelle, ça ne prend pas toute l'armature de toutes les ambassades américaines de par le monde. Ce qui me semble important de signaler, c'est que la priorité aujourd'hui, pour un certain nombre de stratèges du département d'État, je pense en particulier à ce mémorandum un petit peu fou de ce jeune homme qui s'appelle Monsieur Samson, et qui en juillet dernier, sur le site du département d'État, tout frais et moulu de son collège, puisqu'en fait c'est le seul cursus universitaire dont il puisse se targuer, écrivait carrément qu'il fallait aider cet AFD dont on a parlé, l'aider financièrement et aider le Rassemblement National Français à gagner les élections, ce qui est une forme d'ingérence incontestable, parce que quand ce monsieur dit aider, il n'entend pas simplement faire des discours. Il parle bien, malgré la législation qui est la nôtre sur le financement étranger des campagnes électorales, il parle bien d'aider matériellement. Et ça, c'est quand même quelque chose qui va assez loin. Mais c'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est que il y a véritablement, dans l'administration américaine, cette idée d'expliquer, on en parlait au début, aux Européens, qu'au fond, ils sont traîtres à leurs propres valeurs. Et le problème de fond, c'est que en Europe même, je suis pas sûr que nous ayons totalement surmonté la vieille crise entre partisans des Lumières et adversaires des Lumières, de sorte que nous avons nous aussi deux conceptions de la démocratie qui s'affrontent et qui s'affrontaient au moins deux et qui s'affrontaient avant que le président Trump et l'administration américaine s'en mêlent.
Oui, mais pour prolonger ce que vous dites, ce qui est évident maintenant, c'est que il y a des fondations américaines. On pense évidemment à Heritage, qui avait mis au point ce programme 2025, qui a été exécuté d'ailleurs à la lettre, avec un répertoire de 4000 personnes aux États-Unis, capables très très rapidement, et ça a été le cas, de remplir les fonctions au sein de l'État central. Mais on voit effectivement une offre à différents partis de droite plus ou moins dure en Europe, une offre de services, de financement, d'organisation. L'AFD, de formation. Donc l'AFD, il y a une délégation de l'AFD qui sera reçue ce mois-ci, en décembre, à la Chambre des représentants aux États-Unis, même si l'AFD est divisée, semble-t-il, entre pro-Trump et pro-Poutine.
Alors ça échange tous azimuts, ça circule beaucoup, il y a quelque chose qui est nouveau aussi, c'est l'existence des fameuses conférences conservatrices, des CPAC, non seulement aux États-Unis, mais aujourd'hui en Europe, à Budapest en l'occurrence, en Amérique latine. Il ne faut pas négliger du tout ce qui est en train de se passer autour du CPAC en Amérique centrale et en Amérique latine, à une moindre échelle en Australie ou au Japon. Et il faut d'ailleurs insister sur le fait que il y a évidemment l'influence des think tanks américains, mais il y a l'influence des think tanks hongrois, qui ont leur politique autonome vis-à-vis des partis nationaux populistes européens. Je pense au Matthias Corvinum College, je pense à l'Institut du Danube et un certain nombre d'autres qui
sont financés. Et avec des intellectuels américains
Rod Dreher, Gladden Papin, qui sont établis au moins une partie du temps, Patrick Denning, qui voyage beaucoup, toute une série de Visiting Fellows, qui en fait font le lien entre les deux, mais avec quand même, me semble-t-il, un positionnement en propre du gouvernement hongrois. Pourquoi ? Parce que la Hongrie, d'une certaine manière, est un phare aussi pour les partis nationaux populistes européens, dans le sens où, d'abord, c'est un pays européen, donc elle a l'histoire de l'Europe et non pas une projection construite de l'histoire de l'Europe. Ensuite, le gouvernement Orban est en place depuis plus longtemps que M. Poutine, dans une réalité européenne qui inclut notamment cette manière de jouer avec l'Union européenne en la subvertissant de l'intérieur mais sans en sortir. Et puis, quelque chose de très important dans l'inconscient collectif des nationaux populistes européens, la Hongrie est un pays du limès. C'est un pays du limès dans le sens...
Donc le limès, la frontière.
De la frontière qui va de Belgrade à Budapest et de Budapest à Vienne.
Entre le monde chrétien.
De la ligne d'affrontement entre le monde chrétien, catholique et protestant en l'occurrence en Hongrie, et l'avancée perpétuelle alors des Ottomans, autrement dit l'islam. Et c'est quelque chose qui reste très présent, très prégnant dans les mentalités collectives dans cette région d'Europe. Moi, j'ai enseigné un mois en Serbie au mois de février dernier. Je peux vous garantir que c'est véritablement quelque chose qui construit l'imaginaire collectif. Donc la Hongrie est aussi un pays qui peut dire, sans avoir à piquer quoi que ce soit dans le logiciel américain, nous avons, nous, la plus longue mémoire européenne de ces gens qui ont toujours été là pour arrêter l'avancée, non seulement des musulmans, mais aussi des migrants, puisqu'ils viennent de terres musulmanes pour la plupart.
La Hongrie, qui, évidemment, est très bien vue depuis Washington et Mar-a-Lago, puisque Viktor Orban avait été reçu par Donald Trump pendant la traversée du désert, si j'ose dire, de Donald Trump. Olivier Roy, merci d'être avec nous. Vous êtes à Florence. Vous travaillez beaucoup sur le rôle des religions dans les transformations des tissus politiques, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Il y a eu un moment, me semble-t-il, très frappant au Parlement européen quant à l'annonce de l'assassinat de ce malheureux Charlie Kirk, donc c'était à la mi-septembre de cette année. Il y a eu donc Charlie Kirk, qui était une sorte de prédicateur extrêmement talentueux, faisant la tournée des collèges et des universités pour rallier à la cause trumpiste les jeunes et surtout les jeunes hommes, et il y réussissait de façon tout à fait remarquable. Le Parlement européen lui a rendu un hommage à l'instigation non seulement des partis de droite dure européenne, mais même du centre droit et de la CDU allemande. Est-ce que pour vous, Olivier, cela signifie que cette forme-là de christianisme identitaire que Charlie Kirk prônait, elle existe en Europe et qu'elle trouve une résonance nouvelle?
Je crois qu'il y a eu dans ce vote, enfin dans cette cérémonie du Parlement, un petit côté opportuniste, hein, à la fois par rapport à un électorat européen, mais aussi pour ne pas aggraver les tensions avec les États-Unis. Ceci dit, aux États-Unis comme en Europe, on a vraiment deux pôles assez différents qui se réclament du christianisme. D'un côté, c'est un christianisme identitaire, c'est-à-dire qui n'implique absolument pas de pratiques ou de croyances religieuses, qui sert essentiellement, je dirais, à se protéger de l'immigration, et puis, en sous-texte, défendre l'identité blanche, évidemment, de l'Europe et de l'Occident. Donc ça, c'est un populisme qui défend un mode de vie et qui défend pas spécialement des valeurs conservatrices. Hein. C'est l'électorat de Marine Le Pen, c'est Geert Wilders en Hollande qui est tout à fait libéral sur le plan des mœurs et de la sexualité, c'est l'AFD en Allemagne, etc. Hein. On a beaucoup de mouvements comme ça. Bon, c'est un mouvement en Catalogne qui est nationaliste catalan, mais tout en étant libéral sur le plan de la vie sexuelle. Bon. Et à côté de ça, on a maintenant une réaction, je dirais, contre-révolutionnaire, si on peut dire, plutôt catholique, fondamentaliste, qui réclame un retour à la famille traditionnelle chrétienne, aux valeurs chrétiennes, etc. Et ça, c'est très fort aux États-Unis. Ça a commencé dans les années 70, hein, la guerre des valeurs, comme ça a été dit tout à l'heure. D'un seul coup, l'avortement est devenu la question centrale des élections, alors que ça n'était pas du tout avant les années 70. Et on voit donc toute cette offensive américaine avec J.D. Vance, qui porte sur les valeurs, le retour à la famille traditionnelle, la pratique religieuse chrétienne évidemment ouverte, et cette idée que le christianisme doit retrouver sa place dans la société, dans la culture, mais aussi dans la vie politique. Or, il y a un décalage entre les deux. Si aux États-Unis, on a vraiment, effectivement, un électorat qui pratique, qui est plutôt protestant évangélique d'ailleurs, mais qui pratique dans sa vie les normes en question, en Europe, c'est complètement différent. Le protestantisme traditionnel s'est auto-sécularisé et est devenu très libéral. Il reste un peu identitaire dans les pays du Nord, mais ça, c'est autre chose. Et les évangéliques européens, ils sont très normatifs sur le plan des valeurs, ils sont très conservateurs, mais ils recrutent essentiellement dans des milieux issus de l'immigration. Donc ils peuvent pas, si vous voulez, monter dans la croisade anti-immigrants. C'est pour ça qu'ils sont très discrets, on les entend très peu parler. Donc en Europe, l'offensive américaine vise essentiellement l'Église catholique, parce que c'est là qu'il y a les intellectuels, c'est là qu'il y a le, disons, la référence historique et le poids de l'Église dans la construction de l'Europe, hein, du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Donc l'Église catholique est un objectif de cette offensive américaine. On l'a vu avec l'arrivée de Vance au moment du conclave à Pâques dernier, où ils ont fait du lobbying pour essayer d'avoir un bon candidat. Et le problème de cette offensive catholique conservatrice qui s'appuie sur les éléments catholiques traditionnalistes, hein, le problème c'est le pape. C'est que le pape ne rentre pas dans leur jeu.
D'autant qu'il est américain.
Oui, mais je crois que ça c'est tout l'humour du conclave, c'est-à-dire d'avoir choisi un pape américain, mais qui est complètement globalisé. Il appartient à un ordre missionnaire, il ne vient pas du tout de la territorialité épiscopale américaine. Il a passé 20 ans au Pérou, il parle plein de langues, son arbre généalogique renvoie de l'Afrique à la Normandie. C'est plutôt un symbole de la globalisation de l'Église catholique, qui ne peut pas se laisser assimiler à un Occident chrétien, à une culture occidentale, parce qu'aujourd'hui, le poids, le centre de gravité de l'Église catholique, c'est le Sud. Donc ils ne peuvent pas rentrer dans une croisade anti-immigrants en Europe.
Le poids de l'Église catholique est le Sud, et en fait, ce que l'on constate en particulier dans nos églises en France, c'est qu'il y a évidemment beaucoup de prélats qui sont eux-mêmes d'origine africaine, qui sont eux-mêmes des immigrés. Donc, Célia Belin, cette question de l'immigration, elle est évidemment récurrente, non seulement dans la thématique et dans l'action de l'administration Trump, avec un programme de quotas pour chasser du pays, il n'y a pas d'autre terme, les sans-papiers, et même parfois aussi des immigrés légalisés.
Avec
papier.
Il le fait beaucoup.
Et on sait à quel point ce thème de l'immigration, évidemment, en Europe même, devient un thème central dans le débat politique et dans le débat citoyen.
Alors, là, Donald Trump souffle vraiment sur les braises quand il, comme il l'a fait au mois de juin, il dit que il critique l'Europe et il dit que l'Europe doit absolument agir contre une immigration, comme il l'a dit, hors de contrôle. C'est pas seulement Donald Trump, c'est quelque chose que répète sans cesse son administration, bien sûr J.D. Vance, mais aussi de nombreuses personnalités autour de lui, Elon Musk, à de multiples reprises, et même à un niveau où c'est devenu de la communication politique, parce qu'on a vu une campagne, notamment des ambassades, qui se sont mis dans plusieurs pays européens à critiquer les modèles migratoires de l'Europe, ou de tel ou tel pays. À tel point que la France a répondu. À partir du mois de juin, il y a eu une communication officielle du Quai d'Orsay, puis de diverses ambassades, pour repousser, pour finalement changer la conversation sur le modèle migratoire, en disant l'Europe est souveraine, doit pouvoir choisir son modèle migratoire et c'est pas aux Européens de l'imposer. La France est un des rares pays européens à avoir proposer cette réponse. Depuis, le Quai d'Orsay a mis en place une petite cellule qui s'appelle French Response, réponse française.
En franglais, oui.
Voilà, sur X, avec une petite équipe de personnes qui sont chargées de repérer ces attaques informationnelles, ou en tout cas ces campagnes informationnelles. et d'essayer d'y répondre. Parce que cela, être critiqué sur son modèle, c'est un sujet, mais être critiqué de manière répétée, de manière organisée, on peut considérer...
Et de manière officielle.
De manière officielle, que ça devient de l'ingérence et que du coup, les pouvoirs publics doivent répondre. Alors, est-ce que c'est efficace, ça c'est une autre question, parce que la question migratoire rencontre un écho très fort des deux côtés de l'Atlantique. Je voudrais revenir sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure, Black Lives Matter. Black Lives Matter, ce grand mouvement de lutte contre le racisme systémique aux États-Unis, a eu certains échos en Europe. En France, on avait le mouvement parallèle, Justice pour Adama, et il y a eu beaucoup d'échanges sur la question des violences policières, du racisme systémique. Mais comme on est quand même sur deux histoires entièrement différentes, l'histoire de l'esclavage, de la ségrégation américaine étant extrêmement spécifique, malgré toute la part qu'a pris l'Europe sur cette histoire, on a eu du mal, le passage ne s'est pas fait aussi facilement que l'aurait espéré une partie des activistes qui étaient mobilisés. Et finalement, il y a eu moins d'écho de Black Lives Matter en Europe qu'aux États-Unis. Sur la question migratoire, c'est différent. Alors, c'est pas les mêmes populations migratoires, mais on peut considérer que tant les États-Unis que les pays européens ont cette question comme brûlante dans leur sphère politique, et chacun essaie de faire de la surenchère pour essayer d'y répondre, à tel point que finalement ce sont là cette fois les idées européennes qui ont infusé aux États-Unis, où on sait aux États-Unis que Renaud Camus et ses idées sur le grand remplacement ont été lues, où on sait que une grande partie de l'extrême droite européenne a inspiré l'extrême droite américaine. Donc et là c'est un peu plus difficile à stopper, quels que soient les efforts des diplomaties, de stopper quelque chose qui fait partie aussi d'une conversation politique, intellectuelle, sociétale en Europe.
Et d'une conversation ancienne, Jean-Yves Camus.
Oui, un petit point quand même. Renaud Camus est familier des États-Unis. Il y a vécu, et quand on regarde son journal, qui est intégralement mis en ligne depuis la fin des années 70, pas mal d'articles de ce blog sont écrits depuis les États-Unis, mais il n'est pas celui qui a introduit la notion de grand remplacement, qui a été utilisée avant lui, la parution de l'essai de Renaud Camus, c'est 2010, hein, par au moins deux personnes dont une connaît très bien la France. La première, c'est Jared Taylor, qui a été mon condisciple à Sciences Po à la fin des années 70. Et le second, c'est Samuel Francis. Sam Francis, qui était un intellectuel républicain, ultra-conservateur, qui justifiait la ségrégation raciale et l'esclavage, puisque pour lui, la Constitution américaine devait être comprise comme... ceux qui l'avaient écrite à l'époque donnée où elle avait été rédigée.
C'est-à-dire oui, mais ça, c'est l'interprétation.
C'était une constitution pour les hommes blancs, grosso modo. Oui. Et Sam Francis, déjà, ça lui a valu pas mal de problèmes au sein du Parti républicain, avait théorisé le fait qu'il existait un privilège des minorités et que, petit à petit, ces minorités étaient en train de prendre le contrôle sur une population blanche qui allait déclinant.
Mais Donald Trump reprend d'ailleurs, Yachamunk, ce genre de raisonnement quand il veut remettre en cause le droit du sol, en disant c'était bien, en gros, pour les enfants d'esclaves, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Mais plus précisément, quand on voit que l'administration Trump barre désormais toute entrée, tout visa, pour simplifier, d'entrée aux États-Unis, sauf pour les blancs sud-africains, qui seraient soumis en Afrique du Sud à une forme enfin à toutes sortes de brutalité. Et quand on voit depuis l'attentat commis contre deux gardes nationaux à la Maison Blanche, donc par un Afghan qui avait été ramené en quelque sorte aux États-Unis après avoir travaillé en Afghanistan pour la CIA, donc maintenant le langage officiel de l'administration, c'est reverse migration. Et donc ça, encore une fois, traduit en français, donc c'est une espèce... Enfin, oui, c'est le renvoi... C'est la remigration.
C'est la remigration.
La remigration. Yasha. Donc là aussi, correspondance entre les États-Unis et certains mouvements en Europe.
Oui, exactement. Et je trouve que ça, c'est un thème très intéressant dans cette conversation. On le voit dans les différentes idéologies politiques où parfois c'est les Américains qui disent bah c'est la faute des Européens, les Européens qui disent c'est la faute des Américains. Et en fait, il y a
enfin la faute ou le droit. On a enfin
oui.
On a le droit de penser ce qu'on veut, enfin en tout cas.
Mais on a toujours eu ce dialogue à travers l'Atlantique. Alors, dans les débats sur le wokisme, les Américains disent bah, en fait, c'est la faute de la French Theory, c'est la faute de Foucault et Derrida, etc.
Ah, bah, ils ont tous été enseignés dans les grandes universités américaines et on voit les dégâts.
Bah, et on voit donc le débat européen-américain, selon parmi eux qui voient cette idéologie de manière critique, est-ce que c'est la faute des Européens ou est-ce que c'est la faute des Américains? Et on pourrait faire le même dialogue sur les questions de cet nationalisme ethnique de droite qui, historiquement, est plus présente en Europe qu'en Amérique, où il y avait quand même une partie républicaine, un mouvement conservateur qui, pendant très longtemps, avait une conception de la nation plutôt civique qui était opposée, par exemple, à la tradition historique de la nation en Allemagne, en Italie, dans la majorité de pays européens. Et aujourd'hui,
une tradition plutôt civique, c'est-à-dire
bah, que un Américain, c'est quelqu'un qui est citoyen, c'est quelqu'un qui croit à la Constitution, c'est quelqu'un qui s'identifie avec les droits d'un citoyen, d'une démocratie, plutôt que la définition ethnique qui dit qu'un Américain, c'est lui qui est en Amérique depuis toujours, parce que, évidemment, ça, c'est un propos plutôt compliqué dans le contexte américain. Et pour moi, ce qui est très intéressant, c'est que pour le moment, sur le plan institutionnel, c'est l'Amérique qui est le porte-parole de cette nouvelle droite. Et pour le moment, au moins en Europe de l'Ouest, on a des gouvernements plutôt modérés, de centre-gauche, de centre-droite, si ça soit en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Mais on peut très bien s'imaginer un futur, et même un futur proche, où les rôles sont inversés. Alors, en 2029, ce n'est pas inimaginable d'avoir un G7 dans lequel les pays européens sont représentés par Giorgia Meloni en Italie,
c'est déjà
par Nigel Farage en Angleterre, par peut-être Jordan Bardella ou Marine Le Pen en France, et par une politicienne de gauche, peut-être même une Alexandria Ocasio-Cortez, pour les États-Unis. Et ça montre donc très clair que ça, c'est un débat politique idéologique qui est à l'interne de la société américaine, mais aussi des sociétés européennes.
Olivier Roy, les accusations donc proférées avec brutalité par J.D. Vance à Munich, les accusations du président des États-Unis lui-même à répétition contre ces élites mondialisées qui favoriseraient l'immigration dans différents pays et qui nuirait ainsi, pour parler franc, à la race blanche. Est-ce que il faut voir dans le raidissement de cette administration vis-à-vis de l'islam en particulier un pas de plus qui, en Europe, reste à peu près impossible à franchir?
Ben, il faut dire qu'en Europe, il y a une équivalence immigration-islam qui est faite par les gens, même si on peut discuter sur les chiffres. L'islam s'est installé en Europe suite à une immigration de travail massive dans les années 60. Et même s'il y a beaucoup plus de variétés maintenant, une partie des sans-papiers, des immigrés, sont d'origine musulmane. Donc il y a une réactivation, je dirais, du thème de l'identité européenne, de l'identité chrétienne de l'Europe pour justifier ou pour construire un narratif cohérent et s'opposer à toute immigration. Mais, comme je le disais, ce rappel identitaire à l'histoire chrétienne de l'Europe ne correspond pas à un retour au christianisme comme religion. On constate, au contraire, une déchristianisation constante de l'Europe, même quand on voit des formes de revivalisme comme les baptêmes d'adultes. Sur le plan démographique, ça ne change rien. Les baptêmes chrétiens chutent dans toute l'Europe. Donc on a une espèce de contradiction où l'hostilité à l'immigration ne correspond pas, disons, à défense d'une conception spécifique de la société. Sinon, sur le mode très banal de notre mode de vie. Voilà, on défend un mode de vie.
Mais Olivier, qu'est-ce que c'est qu'un mode de vie ? je vous interromps. On a vu que Donald Trump se prépare à déclarer organisation terroriste étrangère certaines branches des frères musulmans aux États-Unis. Là, c'est quand même une étape qui paraît infranchissable dans nos pays européens.
Oh ben ça, on n'en est pas sûr du tout. Hein. Il y a une campagne aujourd'hui contre les frères musulmans, les pauvres qui ne sont que quelques centaines ou quelques milliers dans toute l'Europe, mais qui sont vus un petit peu comme les instigateurs de la réislamisation. Alors que si les jeunes musulmans aujourd'hui expriment leur donnent une visibilité plus grande à leur pratique religieuse, c'est le mouvement vient d'eux-mêmes, évidemment, ils sont pas sous influence. Mais je dirais que cette idée du frère musulman, c'est devenu maintenant une sorte de métaphore de la visibilité de l'islam en Europe et aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'ils font l'objet d'une campagne. Mais supprimons les frères musulmans, ça ne changera strictement rien dans cette volonté d'un certain nombre de musulmans de voir leur religiosité être reconnue dans l'espace public européen comme l'ont été ceux des autres religions.
On en revient en fait à cette notion fondatrice dans nos démocraties des deux côtés de l'Atlantique. Qu'est-ce que c'est que la liberté de penser ? Qu'est-ce que c'est que la liberté d'opinion ? Et là, Célia Belin, on voit qu'il y a véritablement une différence qui est beaucoup plus profonde qu'on l'imagine entre le premier amendement de la Constitution américaine et la tradition française d'un côté, la tradition britannique de l'autre en particulier.
Je dirais que c'est moins sur la liberté de penser que la liberté d'expression. Donc on est tous, a priori, dans nos démocraties libérales, libres de penser ce que l'on souhaite. On est peut-être libres partout, en réalité. Simplement, est-ce qu'on peut ou pas l'exprimer ?
Ça me semble un peu abstrait de
mais
dire.
Mais justement.
T'as bien le droit de penser quelque chose, mais le moment où tu le dis, ça devient un crime, c'est pas une vraie liberté de penser non plus.
Il y a eu, par exemple, une critique émise par J.D. Vance sur la question de savoir si les militants anti-avortement avaient le droit de prier à proximité des cliniques qui pratiquent l'avortement. Prier, au fond, c'est une forme, prier en silence. C'est une forme de liberté de penser, évidemment, et a été très fortement critiquée cette décision d'empêcher des groupes de prière qui se plaçaient à proximité des cliniques. Il me semble que c'était au Royaume-Uni. Mais sans revenir sur ce point-là, je ne vais pas faire de points philosophiques techniques. Il me semble que ces débats sur la liberté d'expression, des débats qui portent aussi parfois sur la liberté religieuse, sur la laïcité, on sait très bien que les Américains comprennent pas du tout le modèle de laïcité.
Rien à faire, on peut essayer voilà, 100 fois.
Ça dure depuis toujours. Voilà, il y a des critiques croisées, et puis exactement de la même manière, les Européens ont toujours beau jeu de critiquer les Américains sur leurs choix fondamentaux, par exemple le droit de porter des armes à feu ou d'autres choix fondamentaux. Il y a systématiquement dans les conversations transatlantiques ces débats qui parfois c'est un peu stérile, il faut bien le dire, parce que chacun essaie d'imposer sa manière de voir les choses. Cela dit, le point sur lequel je voudrais revenir, c'est que cette démarche de l'administration Trump d'essayer de l'imposer extrêmement fortement et cette critique très forte ne se fait pas dans un vide politique ou géopolitique. Elle se fait à un moment de très grande vulnérabilité européenne, à un moment où les États-Unis sont un peu maîtres de la sécurité européenne à travers la guerre en Ukraine et la menace russe. Ça se fait aussi à un moment de grande vulnérabilité commerciale, économique, à un moment où les États-Unis et la Chine ont un temps d'avance considérable sur l'intelligence artificielle et sont en train de laisser complètement sur le carreau l'Europe, à un moment où l'Europe souffre de son manque d'innovation, de son manque d'investissement structurel, de son épargne dormante. À ce moment-là, les États-Unis de Donald Trump ont des cartes à jouer extrêmement fortes contre l'Europe. Et l'Europe, en ne répondant pas sur, que ce soit sur la guerre culturelle et en s'écrasant ou en rentrant dans des formes de transactionnalité sur le commerce ou sur la sécurité pour gagner un peu de temps, se place progressivement en état de vassalité, dans un espèce d'infériorité structurelle. Et ça, c'est extrêmement problématique. Et c'est un élément qui fait que même si ça devait s'inverser en 2029 et qu'encore une fois on avait des nationalistes populistes d'un côté et puis des progressistes de l'autre et que ce soit l'inverse de maintenant, cet élément de vassalisation de l'Europe, ça c'est le tournant historique auquel il faut se méfier. Et donc Donald Trump ajoute une couche supplémentaire en essayant en plus d'ajouter l'insulte à l'humiliation en essayant de transformer aussi la culture européenne.
L'insulte et l'humiliation, Yascha Mounk, on comprend bien que pour vous, dans nos pays, encore une fois, au Royaume-Uni, ce ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas le même appareil législatif qu'en France, où la liberté d'opinion est garantie depuis 1789, mais où nous avons aussi des lois pour encadrer, sinon réprimer, la diffusion d'un certain nombre d'idées, qu'il s'agisse de l'antisémitisme ou d'incitation à la haine raciale. Mais on voit, Yascha, au sein même du mouvement MAGA, là aussi des grincements de dents. Quand Tucker Carlson, qui a été exclu de Fox News, mais qui reste très populaire avec sa plateforme, ses podcasts, etc., qui invite un antisémite notoire qui s'appelle Fuentes, et qu'il est critiqué, Carlson, au sein même du mouvement MAGA, on voit bien que, comment dire, c'est pas non plus l'harmonie complète.
Il y a une chose qui est presque une loi naturelle de la politique, et c'est que c'est toujours ceux qui ont le pouvoir qui veulent bien censurer. Et alors, c'est naturel que pendant la période dans laquelle la gauche américaine pensait d'être dominante dans les institutions culturelles, c'était la gauche américaine qui défendait la liberté de parole. Maintenant que Donald Trump est en pouvoir, la gauche américaine réclame la liberté de parole. Et d'un coup, le mouvement MAGA dit si on fait de certaines blagues sans goutte sur Charlie Kirk, peut-être que c'est bien d'être puni. Et alors, malheureusement, oui, la foi à la liberté de parole est pas du tout consistante, même dans le camp de Donald Trump. Mais pour moi, ça devrait...
La liberté de parole, c'est de penser comme eux. Enfin, ça, c'est vieux, c'est vrai chez nous aussi.
Oui, c'est ça. Mais c'est exactement pour cette raison que je trouve qu'autant qu'Européens, nous devrions peut-être réfléchir de manière un peu plus claire sur les limites à cette liberté dont on parle toujours, même en Europe, sans se rendre compte à quel point la censure est devenue un fait en Europe. Et alors pour moi, par exemple, si on parle de la distinction entre la liberté de penser et la liberté de parole, en théorie, ça existe dans tous les régimes, pour la simple raison que c'est impossible de censurer la pensée et on ne peut pas regarder à l'intérieur de la tête. Alors, cette liberté de pensée, je l'avais même dans l'Union soviétique ou au Corée du Nord. La question importante en politique...
Oui, enfin, avant risque de péril, là, franchement.
Oui, la question importante politique, c'est est-ce qu'on peut s'exprimer sur la politique, même si ça choque, même si ce sont parfois des propos que je trouve moi-même très choquante. Et là, en Europe, je crois qu'on est dans une illusion qu'on peut avoir ces limitations qu'ils amènent à une conversation plus rationnelle en politique, qu'ils nous permettent de pousser de certaines idées au-delà de la conversation. Mais en fait, si je regarde les réseaux sociaux En France, en Europe, je vois les mêmes propos racistes, antisémites, etc. Si je regarde les sondages, je n'ai pas l'impression que tous les gens qui sont en tête dans les sondages français ou européens sont particulièrement modérés. Et donc, je trouve qu'en fait, il y a beaucoup de choses sur lesquelles les Américains ont tort, beaucoup de choses où je ne suis pas du tout d'accord avec des certaines manières américaines de penser la politique, comme par exemple sur le droit de porter les armes, mais sur la liberté de parole, cette vieille tradition américaine, qui est une tradition beaucoup de fois ignorée, mais en principe bipartisane, en principe de gauche et de droite, a même beaucoup à nous enseigner ici en France.
Jean-Yves Camus, l'explosion des réseaux sociaux, bouscule toutes ces frontières. D'autant que beaucoup de gens s'expriment sous anonymat et que même dans notre système à la française, où on est censé être tellement cartésien, etc., ça ne fonctionne plus.
C'est exact, mais la question de la liberté d'expression, elle ne doit pas se voir uniquement à travers le prisme des réseaux sociaux. Si on remet un petit peu l'église au milieu du village, d'abord les lois dites mémorielles qui existent en Europe sont le résultat d'un passé spécifique à l'Europe. Certainement incompréhensible pour beaucoup d'Américains, mais correspondant d'abord à un épisode de notre histoire, et elles sont intervenues, elles ont été votées à un moment spécifique de notre histoire, c'est-à-dire au moment où la contestation de la réalité matérielle de la Shoah devenait en Europe quelque chose d'audible vers la fin des années 70. Il a fallu du temps pour aboutir à la loi de 90 en France, mais le mouvement part de la fin des années 70 et de l'apparition de la contestation de la réalité du génocide. Ça, c'est quelque chose de proprement européen. Ceci étant, quel est le seul pays au monde où un tribunal civil a condamné à 60 millions de dollars d'amende une officine négationniste et l'a obligé à arrêter son activité? Ce sont les États-Unis. En Europe, à quelques exceptions près, les négationnistes qui font une journée de prison, c'est extrêmement rare, il doit y en avoir deux ou trois. Deuxième chose, on n'a effectivement pas le droit en France et dans beaucoup de pays d'Europe d'exprimer des opinions racistes, antisémites, etc. Mais moi, quand je fais le tour d'Europe, je vois dans les kiosques à journaux un certain nombre de publications qui appartiennent plutôt à la droite radicale et qui en fait passent parfaitement à travers les gouttes des lois en vigueur, parce qu'il y a eu toute une reformulation des concepts qui tombaient sous le coup des lois, toute une forme d'euphémisation de ce qui tombait sous le coup de la loi, qui fait qu'aujourd'hui, dans pratiquement tous les pays d'Europe, vous trouvez des publications qui font quand même un peu tousser, et qui ne sont pratiquement jamais déférés en justice. Alors, il y a un autre point qui est important aussi, c'est l'évolution de l'Église sur ce plan-là.
Oui,
sur l'évolution de la liberté de penser.
Olivier Roy faisait allusion tout
voilà,
à l'heure.
Parce que, avant Vatican II, souvenons-nous bien d'une chose, non seulement en dehors de l'Église, point de salut, mais il n'y a aucune liberté pour l'erreur. Après Vatican II, on en vient à quelque chose d'un petit peu plus souple quand même.
Olivier Roy, vous travaillez en particulier sur l'Église catholique, mais plus généralement, j'ai retrouvé un très intéressant papier que vous avez publié dans la très bonne revue Le Grand Continent, c'était en mars dernier, sur une géographie politique qui change dans nos pays, avec en particulier, écrivez-vous, l'effondrement des droites libérales. En Europe, nous arrivons vers la conclusion très provisoire de cette conversation. Mais est-ce que cette modification de notre géographie politique, qui reste tellement différente de la géographie politique américaine, est-ce que c'est aussi une clé d'analyse qu'il faut prendre en compte, Olivier ?
Oui, on assiste à l'effondrement du libéralisme politique en Europe, et je dirais pas seulement en Europe d'ailleurs, pour trois raisons. Hein. La montée des populismes qui refusent le contrat social au sens où ils disent que la société, l'ethnie, le peuple est déjà constitué naturellement et que il n'y a pas à le faire dépendre d'une décision politique. Il y a l'intégrisme chrétien aussi qui continue à dire qu'il y a des choses non négociables, c'est-à-dire par exemple que le mariage homosexuel ne peut pas être voté par un parlement puisque il est contre la loi naturelle, pas seulement la loi de Dieu, mais la loi naturelle en général, donc qui refuse de soumettre à la démocratie un certain nombre de choses. Et puis on a quelque chose là qui est plutôt américain, qui est la montée de la high-tech libertarienne, hein, qui dans le fond méprise profondément le peuple, pousse une élite à se dissocier de la société et des États et se lance dans un grand projet de privatisation dans le fond du monde entier qui fait qu'il n'y a plus de place pour le contrat social, plus de place pour le citoyen et à la limite plus de place pour le peuple.
Célia Belin, est-ce que cela veut dire qu'en fait, dans nos pays européens, où existe aussi un sentiment d'appartenance commun, on est européen en même temps ou après être français, allemand, danois, espagnol, est-ce que ça veut dire qu'en fait, cette carte d'Europe, si on y inclut bien évidemment le Royaume-Uni, en fait, il y a des pays qui sont plus pro-Trump et des pays qui sont plus anti-Trump, avec une focale particulière en Europe de l'Est, où là, il y a évidemment la Hongrie, mais il y a la Slovaquie, il y a la République tchèque, il y a aussi en Pologne un président conservateur qui a été d'ailleurs favorisé, entre guillemets, par la Maison-Blanche au moment de l'élection présidentielle. Donc, est-ce qu'il y a ce clivage-là, les pro-Trump et les moins Trump, les...
Comme l'a rappelé Yascha Mounk, les conflits sont avant tout internes. Donc, un gouvernement peut être pro-Trump pendant un certain temps, mais il peut aussi perdre les élections. Il ne va pas durer éternellement. Et on va avoir des modifications des alliances qui se constituent. Actuellement, Giorgia Meloni a assez bien réussi sur le plan économique, a réussi à tenir la barre et tenir tête.
Et à tenir tout court.
Voilà, à Bruxelles. Et donc, du coup, en ce moment, elle fait l'objet d'un peu de crédit. Donc on sent qu'elle a un peu le vent en poupe, mais ces choses-là se retournent assez vite. Et cela dit, on a encore de grands pays européens qui sont dominés par des pays, par des hommes, femmes d'État de centre droit, centre gauche, assez classiques. Ces choses-là sont mobiles et mouvants. Ce qui est important, c'est de savoir au niveau européen en général, où va la tendance ? La tendance, bien sûr, est portée en ce moment à part ce mouvement post-libéral qui prend de l'ampleur. Or, ça, c'est une contradiction intrinsèque avec ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne et avec ce que l'Union européenne propose notamment à ses voisins en termes d'élargissement, c'est-à-dire de pousser cette idée d'une démocratie libérale, des échanges, du libre-échange ou de la mobilité, des échanges universitaires. Si tout ça prend du plomb dans l'aile parce qu'on commence à avoir un peu partout des gouvernements de plus en plus convertis à cette ultra-droite ou à cette droite très conservatrice, finalement, c'est l'identité même de l'Union européenne qui est remise en cause et sa capacité à mener sa propre politique.
Eh bien, merci beaucoup à vous quatre d'avoir ainsi éclairé, fût-ce de façon contradictoire, ce sujet tellement complexe. Donc, Célia, je rappelle que vous avez signé ce rapport donc sur le mouvement MAGA et les plans de Trump pour l'Europe. C'était en mai de cette année sur le site du Conseil européen des relations internationales. Yascha, vous avez publié Le piège de l'identité, c'était aux éditions de l'Observatoire en 2023. Jean-Yves Camus, vous avez participé à un ouvrage collectif sur l'extrême droite en Belgique, publié par le Centre de recherche d'information sociopolitique cette année. Olivier Roy, je signale votre livre sur l'aplatissement du monde, la crise de la culture et l'empire des normes aux éditions du Seuil. Et je rappelle aussi ce papier que vous pouvez retrouver sur le site du Grand Continent et qui remonte au mois de mars de cette année. À la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud, Ludovic Auger à la technique, Théa Corlaire et la documentation de Radio France m'ont aidé à préparer cette émission. Nous sommes samedi, voici Marina Carrère-Dancausse et ses carnets de santé. Très bon week-end, à samedi prochain.